Merci d'écouter le studio Kalangu. Il est 18h, l'heure du journal en français, dans une présentation de Nafissa Adam. À présent, les titres de ce journal. La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate a officiellement été installée ce matin à l'Assemblée nationale. Elle est composée de 10 parlementaires. La deuxième session du procès des personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram a débuté ce matin à la cour d'appel de Niamey. Les audiences sont prévues pour durer 4 jours. Et puis dans la région de Tawa, 3 marchés hebdomadaires ont été fermés pour questions de sécurité, 2 dans le département de Tilia et 1 à Tassara, à suivre l'intervention du préfet de Tilia dans ce journal. Pour finir, le magazine de ce soir parle de l'impraticabilité de la route à Belagaya due à la construction anarchique des cassis à Molgoro, région de Dosso. Bonsoir à tous. Ils sont 10 les députés membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate. Ce matin, le président du Parlement, Ousseini Tini, a officiellement installé cette commission qui a pour mission d'éclairer l'opinion sur l'affaire dite des 200 milliards. Le processus des travaux détaillé par Ousseini Tini, président de l'Assemblée nationale.
Votre mission consistera donc à recueillir des éléments d'information sur les faits déterminés se rapportant à cette affaire. Vous en ferez rapport à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 124 du même règlement intérieur qui dispose que le rapport établi par une commission d'enquête ou de contrôle est remis au président de l'Assemblée nationale. Le dépôt de ce rapport est publié au journal officiel et annoncé à l'ouverture de la plus prochaine séance, sauf décision contraire de l'Assemblée nationale, siégeant à huis clos, le rapport est imprimé, distribué et communiqué au gouvernement pour toute fin de droit.
Ousseini Tini, président de l'Assemblée nationale. Aussitôt après la mise en place de la commission, les travaux ont démarré. Soumana Sanda, membre de la commission, explique au micro de Habibou Garba.
Cette matinée, on vient officiellement d'installer la dite commission d'enquête parlementaire. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement intérieur en ce qui concerne les enquêtes parlementaires, il comprend un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de 2 rapporteurs conformément au règlement intérieur. La plénière avait décidé que le rapport doit être déposé au plus tard dans les 45 jours. Donc c'est un délai de rigueur. Les députés ont estimé qu'on pouvait le faire bien avant. Maintenant, c'est l'ampleur du travail qui déterminera tout ceci. Pour le moment, permettez-moi de ne pas m'étaler sur nos conditions de travail, puisque comme je vous l'ai dit, je suis membre de cette commission ad hoc et que je suis tenu, n'est-ce pas, de ne rien dire par rapport à ce que nous faisons ou que nous ferons.
Et côté société civile, c'est l'association nigérienne de lutte contre la corruption au Niger, section de Transparency International, qui salue la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Mais la NLC souhaite que la commission soit objective dans son travail. Sidi Abdou, secrétaire à l'organisation du BEN ANCL.
Ce dossier-là est tellement vaste de la façon dont il a été présenté. C'est pour cela que tous les acteurs et structures ou institutions, en tout cas dont les noms sont cités, en tout cas jusqu'aux banques, jusqu'à l'extérieur, si réellement c'est du sérieux on veut, que ce soit du côté de la majorité ou du côté de l'opposition, qui font partie de cette commission, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, jusqu'au détail, pour qu'à la fin, qu'il n'y ait pas encore d'autres supputations. Si on le fait dans ce sens, ça veut dire qu'on a respecté toutes les procédures liées à l'enquête, liées aux investigations. Et en ce moment-là, le rapport sera objectif.
Vous êtes confiant, ce n'est pas une commission de plus, elle va faire son travail et apporter la lumière qu'on attend d'elle.
On est confiant si au niveau de l'état d'esprit. Il n'y a pas l'esprit partisan ou politicien. Si réellement on veut faire la lumière et on se donne tous les moyens de le faire, nous sommes confiants. Mais si les gens, c'est autre chose, c'est pour divertir, c'est pour tirer des profits politiques ou protéger des gens, j'ai dit là, ce n'est même pas la peine si c'est dans cette option-là qu'il faut aller.
Propos recueillis par Asumana China. Aujourd'hui s'ouvre à la cour d'appel de Niamey la deuxième session du jugement des personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre le Boko Haram. Durant 4 jours, plusieurs dossiers seront jugés en matière criminelle. Des précisions avec Tarnan Foudey Ahmed.
La chambre de jugement de la cour d'appel de Niamey a commencé ce matin le jugement des éléments présumés de la secte terroriste Boko Haram. Ce procès auquel la presse s'est vu refuser l'accès se déroule sous la haute surveillance des forces antiterroristes. Environ 42 dossiers impliquant plusieurs personnes, toutes présumées combattantes de Boko Haram, seront jugés du 20 au 24 mars, précise une source proche du barreau nigérien. Contrairement à la session précédente au tribunal de grande instance, au cours de laquelle une centaine de personnes avaient été jugées sans avocat, la présence d'un avocat est obligatoire puisqu'on est en matière criminelle. L'État du Niger et les barreaux de Niamey ont mis à la disposition de ces personnes une vingtaine d'avocats pour leur défense. Plus de 1000 personnes, soupçonnées d'être proches de Boko Haram, sont détenues depuis 2015 en attente de jugement. La semaine dernière, plusieurs d'entre elles ont été jugées au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Les peines vont de 4 à 9 ans selon le procureur de la République.
Je l'annonçais dans les titres, pour renforcer la sécurité des populations, des marchés hebdomadaires ont été fermés dans deux départements de la région de Tawa. Il s'agit des départements de Tilia avec deux marchés et Tassara avec un marché, celui de Midal. Le préfet du département de Tilia, Rouaï Banafa, explique au micro d'Asmana China.
Le premier marché, c'est un marché qui est à quelques kilomètres de la frontière avec le Mali. Et c'est une frontière qui n'est pas contrôlée du côté du Mali. Parce que là-bas, il n'y a pas la présence de l'État. Il n'y a que le même type qui sont à l'origine du banditisme qui contrôle la zone. Voilà pourquoi on a fermé les marchés de Agando. On a fermé les marchés hebdomadaires. Les gens ont encore ouvert leur boutique, mais il n'y a pas les marchés hebdomadaires. Parce qu'il y a beaucoup de bandits qui rentrent. On nous a signalé beaucoup d'éléments, des éléments des organisations terroristes que vous connaissez le long de la frontière. Au niveau de la zone d'accueil des réfugiés Intikan, la commune a créé aussi un marché hebdomadaire. On a trouvé que vraiment ces marchés aussi, il faut les fermer parce qu'il est à l'origine de beaucoup d'actes d'insécurité. Mais il y a des conséquences, c'est vrai. Quelque chose de commercial, il y a des gens qui ont bombé, ils viennent là-bas se ravitailler ou vendre leurs animaux. C'est ça les conséquences, quoi. Ils n'ont qu'à vraiment venir ouvrir leur boutique. Mais les marchés hebdomadaires, il n'y en a plus. Il ne faut pas que quelqu'un vienne pour dire que vraiment lui, il est venu au marché hebdomadaire.
En région toujours, une mission des femmes parlementaires du Niger a séjourné la semaine dernière dans la région de Difa. Cette mission, financée par ONU Femmes et le gouvernement japonais, a pour objectif de sensibiliser les femmes réfugiées sur les violences sexuelles basées sur le genre. Aminatou Salifou, chef de la mission, nous en dit plus au micro d'Adamba Boukarna.
Nous avions effectué des missions dans des camps de réfugiés et de déplacés. Le constat que nous avions fait, le gouvernement nigérien et les acteurs humanitaires ont fait beaucoup d'efforts et continuent à le faire pour le bien-être de la population de Difa. Seulement, comme toujours, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes concernent les filles, les femmes, mais aussi les hommes. D'abord de gestion, parce qu'il n'est pas facile de gérer des milliers de gens. J'ai été donc au camp de Kablea qui regroupe quelques 19 000 personnes. Donc, c'est pas facile de gérer ces personnes. Mais le constat général est que ces personnes sont bien entretenues malgré quelques difficultés. Mais les violences basées sur le genre existent. Et c'est ce qui nous a le plus touchés. L'Assemblée ne va pas rester insensible à ces problèmes parce que ces témoignages que nous avons entendus nous ont meurtri le cœur en tant que femmes, en tant que mères et en tant que femmes parlementaires.
Célébration ce 20 mars de la Journée internationale de la francophonie. Cette 47e édition a pour thème « J'aime, je partage mon 20 mars ». Ici au Niger, c'est l'association des professeurs de français qui a organisé un concours national de dictée au lycée Mariama de Niamey. Meidaji Mahamadou, président de la dite association.
La journée de la francophonie, c'est la journée de partage de la langue française. À cet effet, nous voudrions bien évaluer nos élèves pour voir jusqu'à quel niveau ils ont la maîtrise de cette langue-là, parce que c'est surtout à travers la dictée et l'expression écrite que nous pensons que nous pouvons objectivement évaluer le degré de compétence de nos élèves. La dictée de la francophonie consiste à remettre au candidat un texte erroné. C'est à lui de voir où se trouvent les erreurs et de les corriger. Aujourd'hui, nous avons fait les éliminatoires nationales. Donc, nous allons proclamer les résultats à 18h et nous allons connaître les 14 qui vont représenter le Niger ici, avril, à Abidjan pour les éliminatoires internationales.
En bref, cette réaction de la centrale syndicale Confédération nigérienne de travail CNT suite à l'interpellation vendredi dernier par la police judiciaire de Seni Haruna, premier secrétaire général adjoint du syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'éducation de Bassina Seb. La CNT dénonce cette interpellation et exige la libération de Seni Haruna. Toujours en bref, quatre enseignantes de l'éducation de base de la région d'Agadez sont depuis ce matin entre les mains de la justice. Elles ont d'abord passé 48 heures à la brigade de la gendarmerie d'Agadez avant d'être déférées à la justice. Selon le secrétaire général du SINASEB Agadez, Lawali Garba, ces enseignantes sont poursuivies pour présentation de faux diplômes. L'affaire a été découverte à l'occasion du test d'ICRE en mai qu'elles ont passé en novembre dernier. En sport, les éliminatoires du championnat national première division se poursuivent dans tout le pays. La 15e journée de cette phase retour s'est achevée hier dimanche. Le point avec Soumana Amadou.
Vendredi, une seule rencontre était au programme. Elle a opposé l'ASN Nigelec au Racing. L'ASN Nigelec l'a emporté par 1-0. Le samedi, c'est l'Olympique FC qui a écrasé Tagour par 6-0. Le même jour, l'AS Police s'impose face à Jangorzo 3-2. Défaite également de l'IS Gendarmerie face au Sahel par 1-0. Dimanche, un seul match était à l'affiche. AS Fan contre AS Douane. L'AS Fan s'est imposé par 3-2. La 16e journée est prévue à la fin de la semaine. Parallèlement, les éliminatoires du championnat national 2e division se déroulent dans les régions. La phase aller de la région de Niamey est déjà terminée. Le classement est le suivant. Dans le groupe A, Aka occupe la première place, suivi de la Renaissance et de Aporiva. Groupe B, AS Lazare est premier, AS Aéroport 2e et AS Bassora 3e. Groupe C, premier Liberté, 2e AS Université 3e, Soumani. Groupe D, premier AS Zam, 2e Kandaji, 3e Volcan.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de cette édition, la route à Bella-Gaïa, a longtemps été le calvaire des transporteurs venant de Gaïa. Mais depuis sa réhabilitation, la construction anarchique de Cassis, surtout à Molgorou, gêne beaucoup les transporteurs qui rencontrent d'énormes problèmes. Le reportage de Dauda Hassan.
Nous sommes sur la route Bella-Gaïa, à 40 km de Gaïa sur la route qui va à Dosso. La première surprise qui attend les transporteurs qui n'ont pas emprunté cette route depuis plus de 3 mois, ce sont ces cassis construits par la population. Sur une distance de moins de 500 mètres, on peut en décompter pas moins de 7. Ces ouvrages ont été construits pour parer aux excès de vitesse commis par les transporteurs et à l'origine de beaucoup d'accidents. Le dernier en date, celui qui a causé la mort il y a 3 mois d'un enfant écrasé par un gros camion. Pour M. Boubacar Sambo, secrétaire général du syndicat des transporteurs de Gaïa, ces cassis anarchiques représentent un réel danger pour les transporteurs. On a énormément de problèmes sur cette route-là. C'est sur ces cassis construits par la population que les voleurs profitent pour monter sur les camions. Ils déchirent la bâche pour voler. Et si par malheur, les chauffeurs constatent les dégâts, ils les frappent à coups de machette. M. Adamou, le responsable du service des transports de Gaïa, pour promet de son côté que des mesures seront prises en accord avec la loi et les textes en vigueur pour faire en sorte que chacun, chauffeur d'un côté et riverain de l'autre, respecte la loi. La loi a prévu des dispositions pour protéger nos routes. Une route coûte cher, c'est des milliards, mais tu vas voir, les gens vont placer des cassis n'importe comment. Si les gens ont besoin des cassis, ils font la demande et à notre niveau, on va les faire dans la règle de l'art. L'objectif est donc que transporteurs et riverains puissent se dire satisfaits à l'issue de la mise en place de nouvelles mesures et que la tranquillité et la sécurité puissent revenir sur la route Bella-Gaïa. Daoud Hassan depuis Dosso pour le studio Kalangou.
Et c'est sous ce reportage que se referme cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, le forum du studio Kalangou.